Lorraine Goumeau. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la libre antenne de l'économie. C'est tous les jours à 13h en direct sur BFM, à la radio, à la télé, mais aussi sur YouTube, LinkedIn, Twitter et Facebook. Bonjour à vous qui nous écoutez peut-être en podcast à une autre heure de la journée. BFM Business avec vous, c'est la libre antenne en deux temps. D'abord, on va recruter comme tous les jours et puis on va aussi répondre à vos questions. On répondra à vos questions d'ici un gros quart d'heure. 13h30, je vous donne ce que Valérie m'a écrit sur LinkedIn. Un de mes employés m'explique qu'elle préférerait ne pas venir pour toucher un complément de salaire à son chômage. Vous avez peut-être vécu cette situation en tant qu'employé ou en tant qu'employeur. Vous avez des questions sur le droit du travail, sur le temps partiel, sur voilà, comment on peut optimiser une organisation du travail. Eh bien, vous réagissez en direct sur nos réseaux sociaux ou bien à l'adresse avec vous à bfmbusiness.com. .fr. Un expert sera en plateau avec moi pour y répondre, pour répondre aux questions que vous nous envoyez au fil de l'eau, au fil des semaines, et puis celles que peut-être vous nous enverrez pendant le direct. Vous pouvez aussi réagir sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter et sur Facebook dans les différents threads. Ensuite, vous recrutez, eh bien, ça se passe dans une minute. Aujourd'hui, au programme, on va zoomer sur l'île de Noirmoutier. 10 000 habitants l'année, et puis 100 000 l'été. Comment adresser ce challenge du recrutement sur une île et sur un territoire comme celui de Noirmoutier? Et puis, on parlera cybersécurité parce que les pirates ont toujours une technologie d'avance. On sera avec une entreprise dans ce secteur qui recrute. Vous aussi, venez pitcher votre boîte. Venez nous parler de votre territoire, de votre économie, de votre entreprise. Et puis, si vous êtes candidat ou candidate, eh bien, posez-nous vos questions. Et moi aussi, je peux les poser à nos deux recruteurs en direct. Vous réagissez sur LinkedIn, YouTube, Twitter et Facebook et à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On démarre tout de suite le recrutement. Vous avez entendu, on va parler de Noirmoutier. C'est Séverine Balliot, la responsable de la Maison de l'Emploi France Service de l'île de Noirmoutier, qui est avec moi ce midi. Bonjour Séverine.
Oui, bonjour Lorraine.
Alors on zoome sur votre territoire, on va vous laisser pitcher votre job, cette Maison de l'Emploi, qui à mon avis porte plutôt bien son nom pendant une minute, et puis après on va vous poser pas mal de questions et évoquer vos besoins de recrutement. Allez-y.
Alors, la Maison de l'Emploi France Service de l'île de Noirmoutier est donc directement rattachée à la Direction de l'économie et de l'emploi de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier. C'est un service de proximité qui est là au plus près des demandeurs d'emploi ainsi que des entreprises pour répondre aux besoins locaux. L'insularité, c'est donc la particularité de notre territoire, fait qu'en fait ce besoin de proximité, de rapprocher les gens est absolument essentiel. Les entreprises souhaitent avoir des interlocuteurs proches de chez eux, qui connaissent leur territoire et qui pourront le mieux en parler. Donc la Maison de l'Emploi, c'est donc une équipe de 6 personnes qui travaillent d'arrache-pied là depuis plusieurs mois pour l'organisation d'un événement dont je vous parlerai tout à l'heure.
Alors, on va évidemment parler des besoins en recrutement sur l'île de Noirmoutier avec un chiffre, c'est plus de 450 postes de saisonniers à pourvoir chaque année sur l'île. Et on est pas seulement dans le secteur du tourisme, vous êtes aussi la porte-parole quelque part de recruteurs, d'employeurs aussi dans l'énorme secteur primaire. Décrivez-nous un petit peu la réalité de l'emploi sur l'île de Noirmoutier.
Alors, la réalité de l'emploi de Noirmoutier, c'est qu'effectivement, 80%, on va dire, de l'activité tourne, bien sûr, autour du tourisme. Mais tout le secteur primaire, donc les marais salants, la culture des pommes de terre, la pêche, l'aquaculture, tous ces producteurs, finalement, nourrissent, bien sûr, la richesse de l'île. Hein, l'île est connue pour sa faune et sa flore qui sont extrêmement importants. Et après, on va dire que 50%, en tout cas, des emplois saisonniers sont tournés vers les métiers, bien sûr, de l'hôtellerie-restauration, mais pas seulement. On a plein d'autres domaines et donc les emplois sont vraiment sur tous les secteurs.
Alors, donnez-nous une idée précise des postes qui sont à pourvoir. On va commencer par le secteur hôtellerie-restauration. Qu'est-ce que c'est typiquement les postes que vous avez besoin de recruter?
Alors, typiquement, pour l'hôtellerie-restauration, ça va être des postes de serveur, de chef de cuisine, de runner. Donc, tous les postes, en fait, essentiels pour que l'île puisse accueillir dans les meilleures conditions possibles les touristes. Ce qui est très important pour nous, c'est effectivement la qualité de l'accueil sur notre île. Il s'agit vraiment que aussi bien les touristes que les personnes qui vivent à l'année puissent vivre de la manière la meilleure possible. possible en étant effectivement dans des bonnes conditions de travail.
Bon, alors qui dit hôtellerie et restauration dit aussi commerce, parce que s'il y a des touristes, eh ben, faut bien leur offrir des choses à acheter. Côté commerce, qu'est-ce qu'il y a comme poste à pourvoir ?
Alors côté commerce, donc effectivement ça va être des postes de vente, hein, donc il y a beaucoup de boutiques sur l'île de Noirmoutier, que ce soit des boutiques de producteurs locaux ou bien des boutiques de vêtements, enfin on a tous les postes essentiels, on a aussi quelques grandes surfaces, hein, qui peuvent aussi accueillir des jeunes saisonniers, et donc c'est vraiment l'occasion en fait de vivre une expérience. Venir à Noirmoutier, ça n'est pas seulement venir faire une saison comme n'importe où ailleurs, hein. Noirmoutier a cette particularité d'une douceur de vivre qui est favorable en fait à de bonnes conditions de travail et à une très bonne expérience.
Alors pour conclure, Séverine, la plus grosse difficulté que vous avez, et peut-être quel est le biais qu'il faut ôter de la tête des gens qui viennent généralement chercher des postes saisonniers, qui n'iraient pas vers l'Ouest pour plein de raisons. Qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message ?
Alors le premier message, hein, c'est que ce qu'on a observé, c'est qu'en fait suite au Covid, déjà on n'a pas eu d'événements. Depuis 3 ans. Hein, donc le forum de l'emploi saisonnier qui va se tenir le 20 février prochain de 14h30 à 17h30, ça va être justement l'occasion de renouer avec ce contact direct que recherchent donc les candidats et les entreprises. On voit que les modalités de travail ont évolué, hein, depuis 3 ans, et donc ce besoin de renouer avec le contact est devenu essentiel. Donc le dernier événement était en 2020. Et tout le monde est très impatient, en fait, de contribuer à la réussite de Job en Lille, donc qui sera le forum de l'emploi saisonnier.
Voilà, alors on a dit évidemment hôtellerie, café, restauration, on a parlé du commerce, service à la personne, maintenance, vous cherchez aussi pour la commune de l'île de Noirmoutier, la communauté de communes, un directeur ou une directrice financière. Voilà, pour plus d'informations, je vous renvoie à l'adresse qui s'affiche à l'écran, c'est cdc-ile-de-noirmoutier.com. Vous avez parlé de ce forum et vous aussi, voilà, si vous avez envie de parler de votre territoire et de ses difficultés, mais aussi de ses succès, eh bien venez faire comme Séverine, nous parler de vos besoins de recrutement. Séverine, vous restez avec nous, on va accueillir notre deuxième recruteur pendant qu'il arrive. On va complètement changer de secteur, hein, on passe du coq à l'âne, mais je vous donne un chiffre, c'est 80 633. 1000, c'est le nombre de postes qui ont été promus sur notre antenne depuis le mois de septembre. Comme Séverine et comme tous nos recruteurs, nos recruteuses, vous avez des jobs à pourvoir, eh bien venez nous en parler, venez nous dire les choses difficiles pour votre entreprise, mais aussi peut-être les succès. Et puis, si vous avez des questions pendant le direct, eh bien, vous nous les adressez et on les pose à nos recruteurs, nos recruteuses. Sans transition, les pirates ont toujours une technologie d'avance. C'est le job de Yann-Stéphane Roganji. Bonjour Yann-Stéphane.
Bonjour Lorraine.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur commercial d'un cabinet cyber, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Coessi. Avec vous, on va évidemment s'occuper de cybersécurité. Je vous laisse pendant une petite minute pitcher votre entreprise pour ceux qui nous suivent.
Merci encore Lorraine pour l'accueil. Eh bien, le cabinet Coessi est un cabinet de cybersécurité spécialisé également dans la protection de la vie privée en référence au RGPD, donc au règlement général sur la protection de la donnée. Coessi donc est basé à Nanterre, donc en Île-de-France. Nous accompagnons donc différentes entreprises de tout type, à savoir les TPE, PME, en passant par le secteur public également, des grands comptes jusqu'à des entreprises aussi faisant partie du CAC 40. À l'heure où les cyberattaques et la cybercriminalité devient de plus en plus accrue, donc on est régulièrement sollicité pour pouvoir accompagner nos clients de la meilleure des manières.
Voilà, le secteur cyber qui recrute, hein, vous n'êtes pas le représentant de la première entreprise cyber qui vient nous voir depuis évidemment le début de l'année. Un secteur qui se porte bien, un secteur qui recrute. Alors votre boîte, elle est assez moyenne, vous êtes une vingtaine, mais vous recherchez quasiment 10 personnes pour vous rejoindre. Ça donne une idée de votre croissance, hein, ça donne une idée du nombre de clients que vous avez en portefeuille. On va vous demander, Yann-Stéphane, de nous donner les postes qui sont à pourvoir, peut-être les plus urgents là, pour rejoindre l'équipe de Coessi.
Alors effectivement, Lorraine, comme vous le disiez tout à l'heure, une entreprise de taille intermédiaire qui nous permet justement, enfin c'est un choix, hein, stratégique, qui nous permet justement d'avoir une certaine proximité avec nos différents clients, de la réactivité aussi, ce qui est recherché aujourd'hui. Ce que nous recherchons concrètement comme profil, c'est des profils spécialisés aussi bien en GRC, donc tout ce qui est gouvernance et risque et conformité, des pentesters, donc on en a de plus en plus besoin pour pouvoir être en mode offensif.
Pour les pentesters, hein, pour ceux qui ne sont pas dans le vocabulaire cyber, c'est des hackers éthiques, on pourrait appeler ça comme ça, c'est des hackers à la maison.
Exactement, des hackers maison, oui, effectivement, qui ont, on va dire, les accréditations nécessaires pour pouvoir pénétrer les systèmes d'information de nos différents clients et partenaires pour juger justement de la perméabilité, de l'imperméabilité des systèmes d'information. Donc, pentester, effectivement aussi une grosse urgence, donc un responsable pouvant couvrir notre pôle audit et sécurité afin d'accompagner au mieux nos différents ingénieurs et architectes en cybersécurité.
Grosse urgence, vous avez entendu, pour le pôle audit. Très sérieusement, vous cherchez aussi des jeunes très très diplômés. Vous cherchez 3 jeunes docteurs en cybersécurité avec une spécialité en IoT. Est-ce que, Yann Stéphane, c'est des gens que vous êtes serein, que vous allez trouver sur le territoire français, ou est-ce que, puisque votre entreprise elle travaille aussi à l'international, des profils que vous allez aller chercher ailleurs, ailleurs en Europe, peut-être en Afrique ou aux États-Unis?
Bah écoutez, Lorraine, nos recrutements sont assez diversifiés. Effectivement, on met quand même une priorité sur les ressources nationales. À côté de ça, on est sollicité aussi à l'extérieur. Donc, il nous arrive de recruter à l'international via des parcours qui sont proposés donc par nos différentes préfectures hein, françaises. J'entends par là le parcours passeport talent. Donc, il nous est arrivé effectivement de recruter des profils. Il nous arrive jusqu'aujourd'hui de recruter des profils pouvant nous accompagner dans le développement de notre entreprise.
Voilà. Si vous aussi vous avez envie d'aller participer à la croissance d'une entreprise dans la cybersécurité, ça se passe chez Coesi. Je vous donne une adresse, c'est rh@coesi.fr. Vous allez retrouver cette interview et puis celle de Séverine tout à l'heure sur nos réseaux sociaux d'ici quelques minutes. Si vous avez des questions pour eux, il reste avec moi encore quelques minutes pour une petite rafale de questions RH. Alors, vos deux entreprises, chère Séverine et chère Yann Stéphane, n'ont pas beaucoup de points en commun. Néanmoins, il y a un chantier pour continuer à définir peut-être l'esprit de travail chez vous. Alors d'abord, je vais vous demander, vous avez deux fonctions très différentes aussi tous les deux, mais idéalement, quel est le nombre d'entretiens que vous allez juger nécessaire avant de pouvoir recruter les différents profils que vous avez? À la Maison de l'Emploi de Noirmoutier, c'est quoi le process de recrutement?
Alors, à la Maison de l'Emploi, en fait, on est simplement un relais de proximité hein, vers les entreprises qui, elles-mêmes, ensuite, vont mener leurs entretiens. Donc, on leur permet simplement d'avoir une vitrine hein, de leurs offres. La communauté de communes, hein, en revanche, elle a un service RH. Hein, c'est notamment le cas si jamais vous souhaitez postuler pour le poste de directeur financier. Donc, un directeur financier qui serait spécialisé dans tout ce qui est collectivité locale, hein, bien sûr.
Bon. Donc, ça dépend des boîtes vers lesquelles vous allez aiguiller vos candidats. Et chez vous, Yann Stéphane, c'est quoi le process de recrutement?
Alors, le process de recrutement, c'est-à-dire que, dans un premier temps, donc en amont, on a une publication de différentes offres via différents canaux, que ce soit le site de l'APEC, LinkedIn, ou alors même le site institutionnel de Coesi, accessible en ligne. Et ben les candidats donc ont la possibilité de façon anticipée à nous envoyer donc leur candidature. On les reçoit, on les traite. Généralement, il y a un entretien qui se fait avec la partie technique, donc les ingénieurs techniques, les ingénieurs consultants, experts techniques. Par la suite, bien évidemment, le directeur commercial prend le relais parce que c'est lui qui assure la relation avec les différents clients finaux. Et puis, ben, il y a une validation, bien évidemment, finale de notre président, voilà, Monsieur Hervé Dossin.
Un outil technologique, un outil administratif, un outil informatique que vous utilisez au quotidien et que vous aimeriez partager avec ceux qui nous écoutent, Yann Stéphane?
Alors, un outil technologique que j'utilise au quotidien, informatique. Bon, en interne, niveau entreprise, il faut dire aujourd'hui qu'on a pas mal de choses qui sont externalisées. Mmh. Donc, la mutualisation, quand même, c'est ce qui arrange pas mal d'entreprises. Mais à titre personnel, j'ai un outil que j'affectionne particulièrement. qui s'appelle Watson. Donc c'est une technologie d'IBM pouvant accompagner les jeunes agriculteurs du monde à anticiper sur leur prévisions en termes de production. Donc c'est de l'anticipation, c'est de la projection et c'est assez pertinent. Donc,
appliqué au secteur de l'agriculture. Et vous, Séverine, sans être forcément très technologique, un outil que vous aimez bien avec lequel vous travaillez au quotidien?
Alors l'outil avec lequel on travaille au quotidien, en fait, c'est avec un éditeur de logiciels qui nous permet en fait de recenser les offres d'emploi, également de faire le suivi des candidats. Et ensuite, donc, ils ont créé une interface pour qu'on puisse accéder directement sur la page emploi du site de la communauté de communes à toutes les offres. On peut les filtrer, on peut même afficher uniquement les offres qui seront présentes au forum. Donc pour nous, c'est un outil extrêmement précieux.
Il s'appelle comment cet outil ?
Alors l'éditeur s'appelle Iwan, hein, et donc c'est un logiciel qui s'appelle Goa. Et donc on essaye d'améliorer, on a vraiment une communication très, très fréquente avec l'éditeur justement pour essayer d'améliorer au mieux cette interface, pour avoir le plus de visibilité.
Voilà, deux recruteurs dans deux secteurs tout à fait différents. On a parlé tourisme, secteur primaire avec Séverine Balliot. Et puis on a parlé cybersécurité avec Yann-Stéphane Rogandi. Je vous laisse retrouver les différentes interviews sur nos réseaux sociaux pour postuler directement. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer à la partie questions-réponses de notre émission. Vous savez, vous nous écrivez des questions sur plein de sujets tout au long de la semaine. Et nous, on essaie d'organiser ces questions et de construire des émissions autour de ces thématiques qui vous travaillent. Et là, ce midi, on va parler droit du travail, on va parler vie de bureau, on va parler quotidien dans votre entreprise. On va répondre à vos questions, à vos réactions et quelques-uns de vos coups de gueule. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions pendant le direct sur LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook et aussi sur l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr. Et puis, on répond à vos questions. C'est Thierry Meillat, l'avocat en droit social qui me rejoint. Bonjour, cher Thierry.
Bonjour, Lorraine.
Thierry, vous êtes avocat associé au cabinet Hogan Lovells avec nous sur cette séquence questions-réponses depuis un moment. Donc vous êtes très familier de notre exercice et on a plein de questions pour vous et même quelques coups de gueule. On va commencer par cette réaction de Valérie qui est employeur et elle a pas mal d'employés qui lui demandent de travailler à mi-temps parce que avec un mi-temps, eh ben, on a le droit à un complément de salaire qui est plutôt avantageux. Et elle nous écrit qu'une de ses employées lui a expliqué qu'elle préférait ne pas venir pour toucher ce complément de salaire au chômage. Que vous soyez côté employé ou côté employeur, eh bien, c'est une situation qui visiblement vous interpelle. Valérie, elle nous écrit, malheureusement, on ne peut rien faire face à ce type de demande. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une réaction d'avocat là-dessus ?
Oui, bien sûr, Lorraine. En fait, c'était effectivement une conséquence du mécanisme d'indemnisation pour des salariés qui sont sous indemnisation Pôle emploi, bien entendu. Donc, il faut qu'ils aient travaillé avant. Et c'est là que va se poser la difficulté. C'est que le maintien de salaire, qui est tout à fait légal et prévu par les textes, en fait, est calculé par rapport au salaire précédemment perçu par le salarié, c'est-à-dire au titre de l'emploi précédent. Et il peut arriver qu'effectivement ce maintien en fait aboutisse en fait à payer plus par rapport au nouveau salaire si le nouveau salaire est plus bas que l'ancien. Et donc effectivement dans ce cas de figure qui est assez particulier quand même, c'est pas généralisé, vous pouvez avoir des situations dans lesquelles des salariés vont pas vouloir travailler à temps plein parce que en fait ils auront davantage intérêt effectivement à percevoir une indemnisation de Pôle emploi, ce complément qui est pas éternel hein, qui dure, alors c'est un peu compliqué parce que ça dépend de la durée d'indemnisation à laquelle a droit le salarié, mais qui prend fin à un certain moment. Il faut savoir que c'est un véritable débat sur le point de savoir il ne faudrait pas un peu obliger les salariés à prendre des CDI lorsqu'il y a la possibilité. Il y a en tout cas un débat au niveau du gouvernement là-dessus pour dire on ne peut pas rester dans des systèmes de temps partiel si on a une possibilité de passer en CDI et si un employeur veut prendre quelqu'un en CDI.
Voilà, Valérie, une question un petit peu technique, mais je suis sûre qu'elle fait écho chez certains d'entre vous qui nous écoutaient, qui nous regardaient. Si comme Valérie, vous avez une question, vous voyez, bah, vous nous l'écrivez, vous nous l'adressez à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr et puis eh bien, nous, on vient y répondre, on y répond dans deux temporalités. D'abord dans Good Morning Business tous les matins à 6h40 et à 7h40. Et puis à 13h, comme ça, comme avec Thierry, on répond à vos questions. On va toujours continuer de parler Pôle emploi. Avec cette autre question, un auditeur, une auditrice qui nous écrit « Je viens d'être licenciée et compte m'inscrire à Pôle emploi. On nous demande quelle sera ma durée d'indemnisation. Je viens d'être licenciée. »
Oui, alors je viens d'être licencié, on va partir du principe que c'est après le 1er février, puisque le régime a changé profondément depuis le 1er février, où ça s'applique aussi aux procédures de licenciement entamées à compter du 1er février ou en cours au 1er février. Et donc à compter de cette date, vous avez un nouveau système qui s'est mis en place. En deux mots, le système précédent était assez simple, on avait droit à une durée d'indemnisation qui correspondait à la durée de cotisation. Donc si on avait, avec un minimum de 6 mois, si on avait cotisé 6 mois, on avait droit à une indemnisation de 6 mois. Si on avait cotisé 2 ans, on avait droit à une indemnisation de 2 ans. Pour simplifier, aujourd'hui c'est différent. Le système est un petit peu plus complexe, mais surtout ça aboutit, en fait, dans le système actuel, à baisser de 25%, ce qui est pas rien, la durée d'indemnisation. Pourquoi ? Parce qu'on applique un coefficient désormais en fonction du taux de chômage général. C'est ce qu'on appelle un mécanisme contracyclique. Comme on considère qu'à l'heure actuelle, le taux de chômage est bas, puisqu'il est autour de 7%, le gouvernement a mis en place ce système, pas mal critiqué d'ailleurs en son temps par les organisations syndicales, mais qui est entré en vigueur, qui aboutit à réduire de 25%. Si le chômage devait remonter et atteindre par exemple à nouveau 9 ou 10%, l'idée serait que, pour le coup, les durées d'indemnisation augmenteraient de nouveau. Et on reviendrait à un système d'indemnisation comme jusqu'au 1er février. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui avait droit à 24 mois, aujourd'hui, il n'aura plus droit qu'à 18 mois.
Voilà, c'est cette histoire de réduire la durée de 25%. C'est un peu technique aussi, mais je suis sûre, j'espère que votre réponse a pu éclairer notre auditeur. Une autre situation, on va parler de rupture conventionnelle. Je vous enchaîne les questions, Thierry, parce qu'on a beaucoup de questions d'auditeurs, d'auditrices. Mon employeur m'a refusé une rupture conventionnelle. Je ne veux pas démissionner pour pouvoir toucher les indemnités chômage. On m'a conseillé d'abandonner mon poste afin de me faire licencier et de finalement toucher des allocations. On va parler d'abandon de poste, c'est ça qu'il faut clarifier avec cette question.
Tout à fait. Attention, l'abandon de poste, ce n'est plus aussi simple qu'avant. Il y avait une pratique qu'on n'a jamais vraiment réussi à chiffrer, mais que l'on connaissait dans le domaine des ressources humaines et notamment nous, avocats, devant un employeur qui ne voulait pas signer une rupture conventionnelle et donc payer une indemnité au salarié au titre de la rupture pour qu'il puisse avoir accès au chômage, le salarié n'allait plus travailler et provoquait ce qu'on appelle un licenciement pour faute grave, donc sans indemnité, mais qui lui donnait le droit, en fait, d'être indemnisé par Pôle emploi. Et donc, le gouvernement a voulu mettre un terme à cette pratique. D'ailleurs, c'était dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage dont on vient de parler. Et dans ce cadre-là, maintenant, si un salarié est en abandon de poste, vous allez avoir un système qui va se mettre en place, dans lequel on va le mettre en demeure. Il faudra respecter un certain délai qui sera précisé par décret. Et à l'issue de ce délai, si le salarié ne revient pas ou ne donne pas une justification, parce qu'il y aura une possibilité quand même de justifier si le salarié, par exemple, s'est retrouvé sans pouvoir communiquer avec son employeur.
Il peut y avoir des cas
comme ça, évidemment. Mais si le salarié ne justifie pas dans le délai de mise en demeure, il sera réputé démissionnaire. C'est très nouveau, c'est très très nouveau. Et il ne sera pas indemnisé par Pôle emploi. Donc ce sera un cas de rupture spécifique, à mon avis. Attention, il y aura un droit de contestation. Alors ce sera sous un mois devant le Conseil de Prud'homme, ce qui est très optimiste quand on voit l'encombrement des tribunaux. Parce qu'à Nanterre, c'est 2 ans et demi. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que probablement, il y aura quand même des contentieux à l'issue de ça. Mais en tout cas, il y a une volonté très nette de mettre un coup d'arrêt, finalement, à ce mécanisme d'auto-licenciement, d'une certaine façon, qui existait avant.
Bah, d'ailleurs, Thierry, figurez-vous que les prud'hommes, ce sera le sujet de notre émission de demain. On a pas mal de questions sur, justement, les prud'hommes. Vous avez déjà eu affaire aux prud'hommes, notamment les prud'hommes de Nanterre. Racontez-nous, parce que vous me dites 2 ans et demi. Moi, on m'a dit que ça pouvait aller jusqu'à 6 ans, les affaires aux prud'hommes. On en parlera demain. Restons sur notre sujet du jour, notamment avec cette question de Damien, qui nous a écrit à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Il est entrepreneur et il nous demande s'il peut obtenir une indemnisation de la part de l'État parce qu'il a été dans l'incapacité de recevoir des clients. Pour faute de quoi ? Pour faute d'électricité. Vous voyez la situation ? Je ne sais pas dans quel domaine il est, mais voilà, pas d'électricité, il n'a pas pu recevoir des clients, donc on imagine qu'il n'a pas pu signer des contrats. Il nous demande s'il y a un système d'indemnisation actuellement pour ces situations.
Alors attention, parce que soit le problème qu'a eu Damien, c'est qu'il y a eu une coupure de courant intempestive liée à un problème technique. Dans ce cas, il n'y a pas d'aide possible de l'État. Il faut qu'il se rapproche de son fournisseur d'électricité, qui peut être EDF ou un autre, voir effectivement s'il a un recours possible, voir aussi s'il a pris un contrat d'assurance, ce qui a priori est le cas, essayer de voir comment ce contrat contrat d'assurance va indemniser effectivement la coupure de courant. Il y a aussi des systèmes de médiation quand on n'est pas d'accord avec le fournisseur d'électricité. Donc ça, c'est un cas de figure. L'autre cas de figure qui est intéressant aussi, c'est si en fait il n'a pas pu fournir du courant simplement parce que ses factures sont trop chères et qu'il se retrouve en fait dans une situation de rupture mais financière. Simplement, c'est important en fait de rappeler que pour les petites entreprises, très petites entreprises, il y a un système en fait qui s'appelle amortisseur électricité. Alors c'est compliqué, c'est technique, mais qui permet de lisser de manière très importante la hausse par rapport au prix initial qui était constaté à la période précédente, avec une limitation à une baisse de 50% prise en charge par l'État sur le surplus dans une certaine limite. Donc les TPE et les PME ils peuvent y avoir recours. Il faut aller sur Internet, hein, sur le site du ministère des Finances, par exemple, pour voir comment ça marche. Et il faut savoir que quand on est en micro-entreprise, on bénéficie du même système que les particuliers. Donc, il y a eu une augmentation de 15%, mais qui ne correspond pas à la hausse réelle.
Voilà, donc les autres entrepreneurs, vous êtes concernés.
Voilà, et Damien a quand même des voies de recours, probablement.
Voilà, merci pour cette précision pour Damien. On a une question de Johan, le surveilleur. Johan, qui nous écrit « Je suis gravement malade. Il est actuellement dans l'incapacité, je le cite, morale et physique de subvenir aux besoins de sa famille et il nous demande comment s'en sortir. » Alors, pas facile de répondre à cette question. Bon, salut Johan, et qu'est-ce que vous pouvez lui dire en tant qu'avocat en droit du travail ?
Oui, alors, ça dépend beaucoup de la situation de Johan. Si Johan est salarié, ce qui est probablement la situation la plus simple, en tout cas la plus favorable pour lui. Il va évidemment, s'il est malade, puisque je comprends en tout cas qu'il ne va pas bien, donc s'il est en maladie, il pourra évidemment bénéficier de l'indemnisation de la sécurité sociale, bon, pendant des durées mais qui sont assez longues. Il pourra aussi bénéficier, le cas échéant, de la prévoyance applicable dans son entreprise. Pratiquement toutes les entreprises d'une certaine dimension en ont une, de la mutuelle. Il faut savoir aussi que quand on a des problèmes de santé grave, il y a une procédure qui s'appelle une procédure d'invalidité, de reconnaissance d'invalidité par la Sécurité sociale. Et si on est reconnu invalide, souvent c'est en catégorie 2 ou catégorie 3, on perçoit une rente qui permet évidemment de subvenir aux besoins. Alors attention, parce que l'invalidité, ça peut vouloir dire aussi ne plus être capable de reprendre un emploi ensuite, et notamment en invalidité 3, on ne peut plus.
C'est un
travailler.
Statut qui après vous exile en fait.
Exactement, vous exile du monde du travail. En catégorie 2, c'est un peu différent, mais en catégorie 3, on vous exile du monde du travail. Donc attention quand même, parce que si la volonté, et on peut l'espérer, de Johan, c'est de revenir en fait à l'emploi quand il ira mieux, probablement qu'il faut privilégier ces mécanismes. S'il est indépendant, Johan, ce qui est possible aussi, il peut aussi bénéficier évidemment de l'indemnisation de la sécurité sociale. Par contre, il faudra pour qu'il puisse bénéficier d'un système de complément de rémunération qu'il ait lui-même souscrit en fait un mécanisme. C'est pas toujours le cas pour le coup. Et dernier point, s'il a pas d'emploi, s'il est chômeur, il bénéficiera aussi en fait des indemnités journalières. S'il n'est pas chômeur, s'il n'a pas d'emploi, s'il n'est pas entrepreneur, là par contre c'est souvent très compliqué. Il faut s'adresser à sa mairie, il faut s'adresser au centre communal d'action sociale. Il y a aussi des systèmes. Il y a quand même une aide médicale de la part de l'État qui est en fait une contribution de l'État pour les personnes qui ont moins de 9000 euros par an de rémunération. Donc il ne sera pas quand même sans couverture du tout. Mais c'est vrai que dans ce dernier cas, c'est plus compliqué.
À vous entendre, Thierry, ouais, y a beaucoup de guichets vers lesquels se tourner. C'est peut-être cette complexité qui est difficile à appréhender. Pour Johan, on espère avoir pu éclairer un petit peu votre situation. Si comme Johan, vous êtes dans une situation difficile, vous voulez nous en parler, eh bien, écrivez-nous, donnez-nous le plus de détails possible pour qu'on puisse décortiquer votre situation. Mais vous avez une question du droit du travail, vous avez une question sur la vie de bureau, une réflexion ou même un coup de gueule, vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr ou sur les réseaux sociaux pendant le direct. Vous pouvez nous écrire dans le thread, dans le chat qui s'affiche sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook et puis sur Twitter. Et puis bien sûr, vous pouvez m'écrire à moi aussi en message privé sur LinkedIn. On trie vos messages et on les soumet à nos experts. Merci beaucoup Thierry Meillat, avocat associé chez Hogan Lovells, d'avoir joué le jeu de ce question-réponse avec nous ce midi. On est en direct tous les jours à 13h. Je vous donne le programme de demain. Demain, on parlera des prud'hommes. Avez-vous déjà eu affaire aux prud'hommes dans votre carrière ? Je dis ça avec un sourire, mais c'est pas très drôle. En tout cas, il y a plein de situations, il y a plein de choses à discuter autour de ces prud'hommes. Ça marche, ça marche pas, c'est long, c'est pas long. Ça dépend de où vous êtes en France. C'est l'avocat Sabrina Kemel qui sera avec nous sur ce sujet demain. Vous avez des questions sur les litiges au travail ou sur les conseils de prud'hommes ? Eh bien, vous nous écrivez. Demain, ce sera aussi la grève, mais nous serons là avec toute l'équipe. pourrez nous adresser vos questions aussi en direct. Si vous arrivez en retard au travail, est-ce que vous allez quand même pouvoir être payé? Est-ce que vous avez des difficultés de mobilité, des difficultés de management avec des équipes parcellaires? Écrivez-nous vos difficultés, on y répond en direct tous les jours. Je vous donne la suite du programme. Dans la foulée, vous allez retrouver le meilleur des experts avec Nicolas Dose dès 13h30 dans une petite minute. Et puis c'est lundi. Le lundi à 14h, vous retrouvez C'est votre argent, le rendez-vous qui fait du bien à vos finances avec Marc Fiorentino, qui parle aussi de finances d'un point de vue macroéconomique. C'est à 14h. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Continuez à nous écrire et donnez-nous des nouvelles positives ou négatives de vos situations. Et puis on essaye de les décortiquer en direct avec toute l'équipe et nos experts. À demain.
BFM Business présente Lorraine Goumaud. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie.